Chapitre 3. Ce que Diogène ne pouvait pas dire au sujet des catacombes. Diogène vivait vers la fin de la première période de l'histoire des cimetières. Si sa main avait pu soulever le voile de l'avenir, il aurait vu tout près de lui une époque qui l'aurait réjoui, mais qui devait être suivie d'un temps qui, au contraire, eût profondément affligé le bon vieillard. Aussi, bien que le sujet de ce chapitre n'ait pas un rapport direct avec notre récit, il servira à familiariser le lecteur, théâtre de l'action qui va s'accomplir. Quand la paix et la liberté furent rendues à l'Église, les cimetières devinrent des lieux de dévotion que les fidèles aimaient à visiter. On désigna chacun d'eux sous le nom d'un ou de plusieurs des plus illustres martyrs qui y étaient inhumés. Le jour de l'anniversaire de leur mort glorieuse, des foules de pèlerins se pressaient autour de leur tombe où l'on célébrait les divins mystères qu'on faisait suivre d'une homélie à leur louange. C'est à cette époque qu'on commença à composer les premiers martyrologes ou calendriers des jours commémoratifs de la mort des martyrs qui indiquent aux fidèles où ils doivent se rendre pour les honorer. À Rome, sur la voie Salaria, sur la voie Appienne ou sur la voie Dardée. Telles sont les indications qu'on lit chaque jour dans le martyrologe romain, cette sainte gerbe à laquelle chaque siècle est venu apporter ses épis. Un lecteur vulgaire de ce livre ne se rend pas compte de l'importance de ces indications, car elles ont servi à découvrir l'emplacement exact de plusieurs anciens cimetières. Une autre classe d'écrivains érudits vient aussi à notre aide, mais avant de les citer, nous jetterons un coup d'œil sur les changements que la dévotion a apportés dans les cimetières. En premier lieu, on construisit des entrées et des escaliers plus accessibles, on consolida à l'aide de murailles les galeries tombant en ruine, et l'on pratiqua, de distance en distance, des ouvertures dans l'épaisseur des voûtes, afin de donner de l'air et de la lumière. Enfin, des basiliques ou des églises furent érigées au-dessus des entrées. Elle conduisait généralement à la tombe principale, alors appelée la confession de l'Église. Le pèlerin, à son arrivée dans la Sainte Cité, visitait chacun de ses sanctuaires, coutume encore observée de nos jours, et se dirigeait sans hésitation, par des passages commodes et bien construits, vers la châsse du plus célèbre des martyrs. Il continuait sa route en s'arrêtant à chaque tombe, digne également d'un tribut de respect et de dévotion. Pendant cette époque, on ne permit d'ouvrir aucune tombe et d'en extraire aucun corps. À travers les ouvertures faites dans la pierre, on introduisait des mouchoirs ou des écharpes nommées brandéas pour leur faire toucher les reliques des martyrs, et ces objets ainsi sanctifiés étaient ensuite envoyés dans les plus lointaines contrées où ils devenaient des objets de vénération et de respect. Il n'est donc pas étonnant que saint Ambroise, saint Gaudentius et d'autres évêques aient obtenu si difficilement des corps ou de grandes reliques des martyrs pour leurs églises. Il y avait une autre sorte de relique qu'on appelait ordinairement l'huile des martyrs. C'était cette huile mêlée de baume qui brûlait dans une lampe placée près de leur tombeau. Souvent, on retrouva près d'une tombe un pilier de pierre arrondie d'environ 3 pieds d'élévation et creusé à son sommet. Il était destiné sans doute à supporter la lampe ou servait à la distribution de l'huile qu'elle contenait. Saint Grégoire le Grand écrivait à la reine Théolinda qui lui envoyait une collection des huiles des papes martyrs. La liste qui les accompagnait fut copiée par Mabillon dans le trésor de Monza et publiée par Huynard. Elle existe encore dans ce trésor avec les fioles qui contenaient les huiles scellées dans des tubes de métal. Cette crainte de troubler le repos des saints se manifeste d'une façon évidente dans un fait rapporté par saint Grégoire de Tours. Parmi les martyrs les plus honorés dans la primitive église romaine, on distinguait saint Chrysanthus et sainte Daria. Leurs tombes étaient si célèbres par les guérisons miraculeuses qui s'y opéraient que leurs frères chrétiens bâtirent, ou plutôt creusèrent au-dessus de ces sépultures, une chapelle voûtée d'un travail admirable où des foules de pèlerins venaient s'assembler. Ce fait fut découvert par les païens et l'empereur fit enfermer les chrétiens dans ce lieu de prière et mura l'entrée. Puis on lança aux prisonniers, probablement à travers le luminaret par lequel on avait de l'air et la lumière, une grêle de pierres et de terre. Toute l'assemblée fut enterrée vive et périt ainsi comme les deux saints martyrs qu'elle avait voulu honorer. Ce lieu resta longtemps inconnu après la pacification de l'Église et fut découvert par une manifestation du ciel. Mais on ne permit plus aux pèlerins de pénétrer sur cette terre sanctifiée, on les autorisa seulement à la contempler d'une fenêtre ouverte dans la muraille, et d'où ils apercevaient non seulement les tombes des martyrs, mais les corps de ceux qui avaient été enterrés vifs devant les saintes reliques. Et comme l'exécution avait eu lieu au moment où le prêtre se préparait à célébrer le sacrifice de la Sainte Eucharistie, on pouvait encore apercevoir les burettes d'argent dans lesquelles avait été apporté le vin destiné au sacrifice sans tache. Il est certain que les pèlerins qui venaient à Rome avaient besoin d'un livre explicatif pour visiter les cimetières afin de pouvoir se diriger dans leurs courses pieuses. Il est aussi bien naturel qu'en retournant dans leur foyer, ils fussent heureux de donner à leurs amis moins privilégiés qu'eux une idée de ce qu'ils avaient vu. Heureusement pour nous, aussi bien que pour ses voisins sédentaires, il existe plusieurs ouvrages de ce genre. Les catalogues, composés au VIe siècle, occupent le premier rang parmi ces relations. L'un décrit les places des tombeaux des pontifes romains, l'autre celle des martyrs. Puis parurent trois guides différents pour les catacombes, d'autant plus intéressants qu'ils conduisent le pèlerin par des chemins différents, en s'accordant merveilleusement dans leurs renseignements. Pour donner un exemple de la valeur de ces documents et décrire les changements qui eurent lieu dans les catacombes pendant la seconde période de leur histoire, nous allons donner un court récit d'une découverte qui a été faite dans le cimetière où nous avons laissé notre petite caravane. Au milieu des décombres qui cachaient l'entrée d'une catacombe, dont le nom était encore douteux et qu'on prenait pour le cimetière de Prætextatus, on trouva un fragment de dalle de marbre qui avait été brisé obliquement de gauche à droite et sur laquelle on distinguait les titres suivants. Martyris. Le jeune chevalier de Rossi déclara tout d'abord que c'était là une partie de l'inscription sépulcrale du pape Saint Cornelius. « Probablement, ajoutait-il, on trouvera sa tombe plus avant avec son style particulier. » Puis, comme tous les itinéraires mentionnés plus haut plaçaient cette tombe dans le cimetière de Callistus, c'était ce cimetière, et non celui de Saint-Sébastien, situé à quelques centaines de mètres de là, qui pouvait revendiquer l'honneur de contenir cette tombe pontificale. Il alla plus loin et fit observer que les ouvrages précités, indiquant que Saint-Cyprien avait désiré d'être enterré près de Cornelius, il était probable qu'on découvrirait près de cette tombe un signe quelconque, pieux memento du désir exprimé par Saint-Cyprien, dont le corps, tout le monde le savait, était demeuré en Afrique. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que cette intention ne fût justifiée en tout point. On découvrit le grand escalier qui conduisait à un vaste espace qui avait été soigneusement revêtu de briques à l'époque où la paix avait été rendue à l'Église et recevant d'en haut et l'air et la lumière. À gauche, était une tombe creusée comme les autres dans le roc, sans arceau extérieur au-dessus. Elle était cependant large et spacieuse, et excepté une autre tombe très élevée, située au-dessus, on n'apercevait aucune autre sépulture, ni au-dessous, ni sur les côtés de cette sépulture. On trouva dans cette tombe le fragment qui manquait à la dalle de marbre. Le premier morceau fut apporté du musée de Kircher, où on l'avait déposé. Ils s'adaptèrent parfaitement, et recouvrirent d'une manière complète la tombe, de sorte qu'on pût lire ce qui suit. Cornelii Martyris. Au-dessous, à partir de cette pierre tombale jusqu'au sol, se trouvait une dalle de marbre recouverte d'une inscription dont il ne restait que la partie écrite à gauche, l'autre partie ayant été brisée et perdue. Au-dessus de la tombe était une autre tablette incrustée dans la paroi, et dont il ne subsistait que le côté droit et quelques fragments retrouvés au milieu des décombres. Ce n'était pas assez pour établir les lignes, mais cela suffisait pour montrer que l'inscription était en vers et avait le pape Damasus pour auteur. « Comment donc ?» demandera le lecteur. « A-t-on pu découvrir quel était l'auteur de l'inscription ?»« Très facilement. Non seulement nous savons que le saint pape que nous venons de nommer prenait plaisir à composer des vers qu'il aimait à placer dans les tombes des martyrs, mais les inscriptions composées par ce pontife et venues jusqu'à nous sont tracées avec des lettres d'une forme élégante et particulière que les archéologues désignent sous le nom de Damasienne. Or, les fragments de la dalle en marbre portent des traces de verre gravées dans ce caractère particulier. Continuons notre pèlerinage. Sur la muraille, à droite de la tombe et sur le même plan, on voit deux personnages peints en pied, portant des ornements sacerdotaux. Leurs têtes sont environnées d'auréoles. C'est évidemment une œuvre d'art byzantin au VIIe siècle. Au bas de la muraille, au côté gauche de chacun d'eux, lettre sous lettre, on lisait leurs noms. Quelques lettres sont effacées, nous les remplacerons comme il suit. Léo Pré-Ioannis, PRB. On voit qu'un étranger, lisant les deux inscriptions qui accompagnent les portraits et sachant que l'Église fête les deux martyrs le même jour, peut naturellement en induire qu'ils ont été déposés là ensemble. Enfin, à droite du tombeau, se dresse une colonne tronquée, haute de 3 pieds environ, creusée au sommet, comme celle que nous avons déjà décrite. Elle semble être un témoin demeuré debout pour attester l'usage auquel nous avons dit que les colonnes de ce genre étaient consacrées. En effet, Saint Grégoire a mentionné, dans la liste des huiles des martyrs envoyées à la reine de Lombardie, l'huile de Saint Cornelius. Oleum sancti Cornelii. Nous ferons donc remarquer que, pendant la seconde période de l'histoire des cimetières, des ornements, des améliorations qui les rendirent d'un accès plus facile, furent apportés à la forme primitive qui était d'une si grande simplicité. Mais il ne faut pas croire que nous risquions de confondre ces embellissements tardifs avec les productions des premiers âges. La différence est telle qu'il serait aussi facile de prendre un Rubens ou un Frangelico de Fiesole que de considérer une figure byzantine comme une production des deux premiers siècles. Nous arrivons maintenant à la troisième période de ces saints cimetières, la période de désolation. Quand les Lombards et plus tard les Sarrasins commencèrent à dévaster les environs de Rome, les papes, craignant la profanation des catacombes, firent extraire les corps des plus illustres martyrs qu'ils placèrent dans les basiliques de la cité. Les choses restèrent ainsi jusqu'au 8e ou 9e siècle où l'on parle encore de réparations ordonnées dans les catacombes par les souverains pontifes. La dévotion pour les catacombes diminua alors et les églises qui avaient été élevées à leur entrée furent détruites ou tombèrent en ruine. Celles qui étaient fortifiées et qui pouvaient être défendues subsistèrent seules. Telles sont les basiliques extramuros de Saint-Paul sur la voie d'Ostie, de Saint-Sébastien sur la voie Appienne, de Saint-Laurent sur la voie de Tibur, de Saint-Agnès sur la voie Nomentane, de Saint-Pancratius sur la voie Aurélienne, et la plus grande de toutes, celle de Saint-Pierre sur le Vatican. La première et la dernière de ces églises étaient entourées de bourgs ou de cités, et le voyageur peut encore voir les restes de fortes murailles aux abords des autres. Il n'est pas moins surprenant que le jeune archéologue, dont nous avons si souvent cité le nom avec louange, ait retrouvé deux de ces basiliques presque intactes à l'entrée du cimetière de Saint-Calistus. L'une servait d'étable et de boulangerie, l'autre de magasin à vin. La première est probablement celle qui fut construite par le pape Damasus, dont nous avons souvent parlé. La terre enlevée par les eaux à travers les ouvertures pratiquées pour l'aération, les dégâts causés pendant le cours des âges par ceux qui s'introduisaient, en profitant du voisinage des vignobles dans les passages non gardés, et enfin l'action dévastatrice du temps et les intempéries des saisons, ne nous ont laissé que des débris des anciennes catacombes. Mais nous devons nous montrer encore reconnaissants de ce qui nous reste. C'est assez pour que nous puissions contrôler les rapports qui nous sont transmis par ceux qui vivaient dans des temps meilleurs et pour nous guider dans la reconstruction de nos ruines. Le souverain pontife actuel a plus fait dans quelques années pour les lieux sacrés qu'on avait fait avant lui pendant des siècles. La commission mixte qu'il a instituée a fait des merveilles avec des ressources très bornées. Elle travaille systématiquement et élucide complètement un point avant d'en aborder un autre. On n'enlève aucun objet de l'endroit où on le trouve, mais chaque chose est remise autant que possible dans son état primitif. On prend des copies exactes de toutes les peintures et on trace les plans des parties explorées. Pour assurer ses brillants résultats, le pape a acheté sur ses ressources particulières des vignes et des champs, spécialement à Tormarentia, où le cimetière des saints Néré et Achillée est situé. L'empereur des Français a aussi envoyé à Rome des artistes chargés d'exécuter un magnifique ouvrage, peut-être un peu trop magnifique, sur les catacombes. Ce sera une œuvre vraiment impériale. Il est temps maintenant de rejoindre les trois jeunes gens dans les catacombes et de terminer notre visite à cette cité des saints qui ont quitté la terre en prenant pour guide nos anciens amis les fossoyeurs.